Les petites histoires font les grandes histoires. Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie, les racines de la région, avec petites et grandes histoires de la Basse Marche.
Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle chronique des petites et grandes histoires de la Basse Marche que j'ai intitulée aujourd'hui « Bob Giraud, le poète de Nantia ». Ce sera notre 243e émission et notre 163e chronique. Pour les textes, j'ai fait appel aux auteurs et aux ouvrages suivants. Georges-Emmanuel Clancier, Le temps d'apprendre à vivre. Roger Kenneth, Monsieur Bob, un article des cahiers de Robert Margerie. Et Olivier Bailly, Monsieur Bob, dans la collection Écrivain, Vins s'écrivant V-I-N-S.
Pas d'autre rendez-vous. Moi, mon cœur n'a pas vieilli pourtant. Où sont tous mes amants? Dans la tristesse et la nuit qui revient, je reste seul, isolé, sans soutien, sans nulle entrave, mais sans amour. Comme une épave, mon cœur est lourd. Moi qui jadis ai connu le bonheur, les soirs de fête et les adorateurs, je suis esclave des souvenirs et cela me fait souffrir. Où sont tous mes amants, tous ceux qui m'aimaient tant? Jadis quand j'étais belle, adieu les infidèles, ils sont je ne sais où, à d'autres rendez-vous. Moi mon cœur n'a pas vieilli pourtant, où sont tous mes amants? La nuit s'achève et quand vient le matin, la rose y pleure avec tous mes chagrins. Tous ceux que j'aime, qui m'ont aimé, dans le jour blême sont effacés. Je vois passer du brouillard sur mes...
C'est la grande Fréhelle qui vient de nous interpréter « Où sont tous mes amants ?» Alors sans doute chanta-t-elle cette chanson durant l'été 1950 dans cette salle du bistrot parisien des Escarpes où l'on a ressuscité l'ambiance des bastringues de la rue de Lappe. Fréhelle, courte sur pattes et énorme, immédiatement reconnaissable à sa célèbre frange, se frayait brutalement un passage. Puis, juchée sur une estrade improvisée avec des casiers à bouteille, elle se campait, main aux hanches, et entonnait d'une voix sourde qui peu à peu s'amplifiait, une voix rouillée de vieille pocharde, l'émouvante chanson de Pépé le Moko. La chanteuse est parfois accompagné par Léon Lalune, un clochard qui a ses habitudes à la moufle, la rue de Mouffetard. Celui qui venait d'organiser les derniers concerts de Fréhelle, elle disparaîtra quelques mois plus tard, celui donc qui venait d'organiser les derniers concerts de Fréhelle, c'était Robert Giraud. Et Robert Giraud, c'est un enfant de Nantia. Avant de vous parler de l'écrivain poète Robert Giraud, écoutons cette musique d'Henri Crolla pour le film d'Alain Jessois dont Robert Giraud fut le scénariste, film intitulé Léon Lalune, le clochard qui joue de l'harmonica pour accompagner Fréhelle.
Petites et grandes histoires de la Basse Marche.
Dans son dernier ouvrage « Le temps d'apprendre à vivre », Georges-Emmanuel Clancier rapporte qu'au début de l'année 1945, une rencontre chez le photographe résistant Isis, qui s'était réfugié pendant l'occupation dans la région d'Ambazac, regroupe lui-même, Georges-Emmanuel Clancier, mais aussi René Rougerie, le futur éditeur de Mortemar, Robert Margerie, le dadaïste Raoul Haussmann, lui-même réfugié à Peyrale-Château, l'écrivain alsacien André Weber, réfugié à Limoges, etc. Et un tout jeune poète, Robert Giraud, accompagné de sa charmante compagne, muse et poète également, Jeannine Lamarche. Au cours de la soirée, écrit Georges-Emmanuel Clancier, j'avais beaucoup sympathisé avec le jeune Robert Giraud, auquel, avec l'assentiment de René Rougerie, j'avais demandé des poèmes pour la revue que nous préparions. Robert Giraud était, comme moi, un ancien élève du lycée Gay-Lussac, mais il ne l'avait quitté que depuis peu d'années, et sa vie avait été d'abord pittoresque et hasardeuse. Il s'enfuyait, le soir tombé, de son logis familial et passait ses nuits dans un bordel de la rue Pré-Papeau, laquelle aboutissait à la rue portant le nom de l'auteur des Fleurs du Mal, dont le nom inscrit sur la plaque était orthographié Charles Baudelaire, B-E-A-U. Une prostituée de la maison s'était éprise du jeune lycéen et c'était dans ce gîte hospitalier qu'il avait préparé avec succès son baccalauréat. Il y avait là comme une préfiguration de la vie qu'il mènerait des années plus tard à Paris, où ne sortant que la nuit, il irait de bistrot en bistrot, en véritable ami des clochards de la capitale. Lorsqu'il évoquera cela dans le vin des rues, je l'imaginerai un peu comme un frère lointain de Rétif de la Bretonne. Puis, son action dans la résistance, il appartenait avec sa gentille Jeannine au mouvement de libération nationale, le mit en danger. Dénoncé par un ancien camarade de lycée, arrêté par la Gestapo, il avait été parqué avec d'autres résistants dans les locaux du grand séminaire transformé en prison par les nazis. Lui et les autres détenus avaient cru leur dernière heure arrivée lorsqu'ils avaient entendu des pas militaires dans les couloirs aux alentours de leur geôle. Mais, ô joie, c'était au contraire les FFI du lieutenant-colonel Guingouin qui, après la fuite de la garnison allemande, venait les délivrer. Parmi les prisonniers compagnons de Robert Giraud se trouvait le jeune André Schwarzbach, dont le roman « Le dernier des justes » sera couronné par le prix Goncourt en 1959.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
L'ennemi était chez moi, on m'a dit résigne-toi, mais je n'ai pas pu.
Robert-Paul Giraud est né le 21 novembre 1921 à Nantia. Son père est vérificateur des contributions indirectes, un bon poste. La famille est aisée et propriétaire terrienne. Après la petite école, Robert Giraud fréquente le lycée Gay-Lussac. En effet, ses parents habitent maintenant rue Croix-Verte à Limoges. Ses premiers camarades s'appellent Marcel Lecournay, futur grand libraire de Limoges, et Roland Dumas, avocat et futur ministre des Affaires étrangères. En classe, Robert Giraud, doué en littérature mais pas en mathématiques, est un élève frondeur et assez peu assidu. Il se passionne pour la littérature, lit Macorlan, Charles-Louis-Philippe, Apollinaire, Francis Carco, qui sont ses auteurs favoris. Il écrit des poèmes et explore les puces de Limoges tous les samedis matins. Il restera toute sa vie un amateur de brocantes, de cartes postales qu'il collectionnera par milliers, de vieux bouquins qu'il chinera, qu'il revendra, un métier qu'il sait d'instinct. Il y a déjà en lui du broco et du bouquiniste, écrit son biographe Olivier Billy. Parallèlement, il s'enfièvre pour la politique, il a alors 15 ans en 1936 et soutient le Front populaire. Arrive l'occupation et pour Robert Giraud, la guerre commence par les chantiers de jeunesse du Maréchal, nous voilà. Il est affecté dans une ferme du côté de Clermont-Ferrand, comme muletier palefrenier. Au bout de 13 jours, il en a marre et il rejoint la résistance. À partir de 1943, il devient un résistant très actif, participe à la création d'une imprimerie clandestine, puis, les armes à la main, il harcèle les divisions allemandes. En juin 1944, il est arrêté par la Gestapo, enfermé dans les locaux du petit séminaire de Limoges. Il passe à la question et, heureusement, comme nous l'expliquait Georges-Emmanuel Clanchier dans un texte précédent, il sera libéré par les troupes du libérateur de Limoges, le colonel Guingouin. Ces quelques mois de prison, alors qu'il est encore un très jeune homme, cette fréquentation des prisonniers politiques comme des droits communs le hanteront toute sa vie.
J'ai changé 100 fois de nom, j'ai perdu femme et enfant, mais j'ai tant d'amis. Et j'ai la France entière. Hier encore nous étions 3, il ne reste plus que moi, et je tourne en rond.
À la Libération, il abandonne ses études de droit, il devient rédacteur de l'hebdomadaire Unir, l'organe des mouvements unis de la résistance. Mais l'aventure du journal Unir durera moins de 2 ans et Robert Giraud perd son emploi et sa compagne Janine le quitte. Dépossédé de sa carte de journaliste, abandonné par ses compagnons retournés au pays, le chômage le conduisit à la dérive, traînant la nuit dans les rues où les bars restaient ouverts. Robert Giraud se met à boire. On dit que je bois beaucoup. C'est faux. Je bois tout le temps. Il boit d'abord parce qu'il a faim. Il se nourrit de vin. Manger est alors une préoccupation de chaque instant. Il enchaîne toutes sortes de turbins, de la bricole, des combines, pas toujours très honnêtes, mais quand on est sur le carreau, il y a urgence. Il sera ramasseur de mégots, voleur de chats, dont la peau se vend alors très cher, on l'utilise pour guérir les rhumatismes. Il sera commis en maçonnerie et surtout manutentionnaire aux halles, ce qui lui permet de se nourrir. Pendant cette période, il va fréquenter tout ce que la capitale compte de paumés, de crevards, de sans-boulot, de tricards, de repris de justice, de libérés de tôles. Il deviendra pour un temps le secrétaire du peintre Dubuffet, mais cela se passe très mal. Et alors il s'essaiera au métier de brocanteur. C'est alors qu'il rencontre celui qui deviendra un des plus grands photographes du XXe siècle, Robert Doisneau, et grâce à lui et à ses amis, il réussira à vendre des articles à Franc-Tireur, à Paris-Presse, à Détective, mais aussi à des petits journaux qui paient mal comme la Revue des Tabacs, Montmartre Panorama, Ma Cuisine et Les Vins de France ou l'Auvergnat de Paris. Il y traitera des sujets en marge, clochards, tatoués, gitans, petits métiers de la rue, prostituées, petits bistrots. Ce sera particulièrement le cas dans un article de Paris Presse réalisé avec Robert Doisneau, « Les étoiles noires de Paris ». Il va ensuite participer à la co-rédaction d'un ouvrage consacré aux tatoués et un article intitulé « L'homme qui voulait vendre sa peau » paraîtra même dans les lettres françaises de 1947, le journal que dirigera Aragon quelques années plus tard.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
Ça va, ça vient, 4-21, ça va, ça vient, salut machin, au revoir, merci, à la prochaine. 2-3 titis qui se ramènent, charriant tout le monde, malicieusement, baratineur, rarement méchant, le bruit des verres, le bruit des voix, tiens v'là grand-père, assieds-toi là, et la tolière, au sein comme ça, à fort affaire, range-toi papa, fais gaffe au verre, oh ça va comme ça, et toi gangster, qu'est-ce que tu bois, bistrot parisien. Troquer le paname, plein de sueur et de vie, de fumée hurler et de crier. Vulgaire petit bougnard, où on achète du bois. Moi je vous aime bien, vous êtes mes copains. Y'a Monsieur Jo, l'énigmatique, y'a le vieux beau qui est diabétique, y'a le comédien.
C'est Albert Fraisse qui publiera Paris Insolite qu'aurait pu écrire Robert Giraud s'il avait été plus courageux. Et le père Fraisse, un bistrotier ami de Robert Giraud, décide de lui donner de l'argent pour écrire son bouquin, à condition qu'il aille dans un coin où il ne connaît personne. Finalement, on envoie Robert Giraud dans une maison de l'île de Bréa, et 2 ans après, il a écrit son premier roman, Le vin des rues. C'est d'ailleurs Jacques Prévert qui lui impose ce titre, Le vin des rues, qui sera publié en 1955 chez De Noël. Voici ce qu'on peut lire dans le prière d'inséré rédigé par Douaneau. Giraud vous raconte des histoires sur le ton d'une simple conversation, exactement comme si vous étiez avec lui au comptoir devant un bon Beaujolais chez Fraisse ou chez Polo qui verse l'Algérie dans des demi. Mais ne vous y trompez pas, Giraud n'est pas un montreur de monstres. L'essentiel, le merveilleux de ce livre, c'est que les acteurs écorchés par la nuit jouent sur des motifs vieux comme le monde. Il y a là-dedans un monde fou qui rêve tout haut. Et savez-vous que tout cela est vrai? Un personnage principal, le vin, qui coule dans tous les figurants, et surtout, sérum de vérité qui délie les langues. Le vin des rues est très vite un succès, reconnu par Jacques Prévert, par Pierre Macorlan, par Blaise Sandrard, par Antoine Blondin ou par René Rougerie, le futur éditeur de Mortemart, qui déclare que le vin des rues est le grand poème de Bob dédié à la ville. Toute une œuvre en un seul volume, un très grand livre, une sorte d'explosion de la liberté.
Ce soir-là, j'avais du bon temps, un bel amour à mes côtés. Les rayons du soleil couchant au fond de mon verre étoilé. Ce beau soir-là, je voulais vivre loin de ce que j'avais connu. Ce soir-là, j'étais un peu ivre, plus que je ne l'aurais voulu. Chante vigne, chante vin, chasse la paix des hommes. Chante vigne, chante vin, la vraie chanson de l'automne. Sans la vigne, sans le vin, ce beau soir ne vaudrait rien. Autour de moi, comme à la foire, la terre se mit à tourner. Donc il aurait fallu ce soir.
Jusqu'à présent, Robert Giraud n'avait publié que des poèmes. En 1943, Confession au jardin, dont voici un extrait. Ohé, vieux Marcel Le Cournet, le clairon de notre jeunesse, dont mauve frappe à tes volets, et clame que ce temps renaisse. Malgré pantoufles et gilets. En 1944, c'est la légende du fils de Lalande où, dans ce recueil, Robert Giraud évoque l'initiation que constitua pour lui la guerre. Il était l'heure où l'herbe avait puisé dans la nuit la force nécessaire pour poursuivre sa lutte contre le soleil. Notons que, sans y appartenir, Robert Giraud participera aux activités de l'école de Rochefort, en particulier avec Maurice Fombeur. Mais il publiera aussi Couronne de vent en 1946, avec des poèmes de René Guicadou, de Georges-Emmanuel Clancier, puis ensuite avec le poète Michel Ragon. En 1946, c'est La cage au lion. Il continue aussi de publier des articles, de participer à des ouvrages collectif comme Permanence du cirque en 1952, écrit avec Michel Ragon et préfacé par Pierre Macorlan. Des titres de chapitres à la fête, au marché, au bistrot. Pierre Macorlan apprécie beaucoup Robert Giraud. La principale interprète de Macorlan, Monique Morelli, qui avait débuté comme dompteuse chez Fratellini, est une amie de toujours et pour toujours de Robert Giraud. Écoutons ici Monique Morelli qui interprète un exceptionnel poème de Macorlan dans La ville morte.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
En pénétrant dans la ville morte, je tenais Margot par la main. Un éternel petit matin nous apportait sa lumière morte. Nous allions de ruine en pétrin dans les rues de porte en porte. Ce qui avait été des portes s'ouvrait sur d'étranges confins. Je tenais ma femme par la main dans les rues de porte en porte. Ce n'était que porte vide et poubelle pleine de cris. Des explosifs incorrigibles se dérobaient dans des replis. Nous marchions dans la nécropole, les pieds brisés et sans parole.
En 1961, il publiera Les Cris de Paris, où, avec le peintre Lars Bob, il décrit le quotidien des Parisiens d'en bas, la marchande de poissons, le crieur de journaux, le rémouleur, le vendeur de billets de loterie, la dame du manège de chevaux de bois, le raccommodeur de faïence, le chiffonnier. Notons que Paris compte alors plus de 10 000 chiffonniers, la marchande de ballons, le marchand de marrons, le vitrier, etc., etc. En 1974, il entre comme rédacteur à l'Auvergnat de Paris. C'est un hebdomadaire qui tire quand même à 250 000 exemplaires. Robert Giraud est sans doute le meilleur connaisseur du Paris des petites gens, du Paris des marginaux, le Paris des petits métiers, des bordels ou des bals musettes. Et dès les années 1960, il comprend que ce Paris-là est en train de disparaître progressivement. C'est sans doute pourquoi il écrit tant d'articles de co-rédaction qui sont autant de témoignages. Nous ne pouvons citer tous ceux avec qui il travaillera, avec qui il collaborera. Notons que René Rougerie lui fera rencontrer Gaston Chessac, le peintre. Mais le rapport de Giraud à la peinture est relativement superficiel et pourtant son frère, Pierre Giraud, ancien maquisard comme lui, installé à Paris comme lui, est devenu un peintre et un illustrateur reconnu. Parmi les autres admirateurs de Robert Giraud, on trouve Francis Carco. Voici un très beau poème de Francis Carco, Le bar du dernier verre.
Au bar du dernier verre, un soir que j'étais seul, j'ai cru revoir, comme à travers un vieux miroir, tous les amis de ma jeunesse. Aucun ne paraissait me voir. Cette nuit-là, j'ai bu sans cesse au bar du dernier verre, un soir que j'étais seul, j'ai cru revoir. Amis, buvons comme au beau temps de nos 20 ans. Amis, buvons comme la guerre. Si l'un seul de vous m'est rendu, rien n'est perdu. Amis, buvons un dernier verre. Amis, buvons. J'ai bu jusqu'au petit matin, à leur santé d'un air lointain. Le miroir n'avait plus de teint. Il semblait m'attendre derrière et souriait d'un air lointain. Pour chacun j'ai levé mon verre, buvant jusqu'au petit matin, à leur santé d'un air lointain. Amis, buvons comme au beau temps de nos 20 ans.
Tous les week-ends, Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie, les racines de la région.
Les traductions du vin des Russes sont particulièrement difficiles car dans ce roman, on passe de Baudelaire à l'argot le plus pur et parfois même matiné de parler gitan. Et Bob Giraud va désormais s'intéresser avec précision au parler du petit peuple et des marginaux. En 1965, il publie « Le royaume d'argot », véritable encyclopédie de l'argot qui deviendra très vite le livre de référence. En 1971, ce sera l'Académie d'argot qu'il publie en tandem avec le caricaturiste du Canard enchaîné Moison. On y trouve des textes d'André Schwarzbart, de Jacques Prévert, de Macorland, de Robert Sabatier, traduits en argot. Après les tatoués, après les clochards, après le vin, Bob Giraud deviendra un spécialiste S argot. Après le royaume d'argot et l'académie d'argot, ce sera l'argot tel qu'on le parle, l'argot du bistrot, l'argot des rosses et même l'argot de la série noire.
Qu'on le dise en argot, qu'on le dise en poème, que l'on change les mots, le fond reste le même. Ma jeunesse a foutu le corps de part chez nous. Le cœur n'y était plus quand elle a mis le bout.
Et la boucle est bouclée. Aux quatre sergents de La Rochelle, c'est un bistrot, un des types bâille et se frotte les yeux. Il a l'air ahuri comme s'il sortait d'un rêve. Les hommes sont là. Le jour ne s'est pas encore levé. Le ciel est encore tapissé de goudron. La nuit a été longue. Elle commence à capituler. De discrets bruits avant-coureurs annoncent l'arrivée des grands chevaux, des grands sabots, des emmerdes éclairées à profusion et des petites joies que l'on peut sans crainte dévoiler à la lumière du jour. La vie normale. La neuil s'apprête à se dissoudre dans le quotidien qui pointe. Un clil s'exclame qu'il faut maintenant décarrer. Demain est un autre jour. Gégène, tête de paf ronflotte, assis à califourchon sur sa chaise. Il ne sait pas qu'il clamsera demain. Il ne vaut mieux pas. Cela lui gâcherait le plaisir. Entre les bras de Violette, un peu plus bas, au village, un bistrot concurrent des quatre sergents de La Rochelle, sauf qu'au village, les chambres au-dessus du bistrot ne sont pas faites pour dormir. Bob titule légèrement, au fond de son estomac clapote un peu de Beaujolais. Il s'étire comme un chat. Son clope est toujours allumé, à croire qu'il fume le même depuis l'entame de la nuit, depuis qu'il est amarré au bout du comptoir. Sa main est encore fine mais décharnée. Son allure adolescente accuse la courbure du dos. Sa tignasse est clairsemée. Il n'a pas vu le temps passer. Son verre est à peine creusé, à moitié vide, à moitié plein, comme si on était encore tout à l'heure au début d'une histoire qui passe trop vite. Il pense à son enfance, à la guerre. Quelle connerie, la guerre. Il pense à Prévert. Qui disais-tu à tous ceux qu'il aimait? À Douaneau, son camarade, à son sourire malicieux, à sa façon de dire « Monsieur Giraud, vous ne serez jamais un garçon sérieux ». Alors comme une tendresse pour l'humanité imparfaite, il pense à Chomeil, bon compagnon des dérives nocturnes, à Fraisse, aux filles de la rue Prépapeau et à celles de la rue de Quincampoix, aux ramasseurs de mégots et aux voleurs de chats. La vie est un songe creux comme un ver menteur. Il pense à ses amis, aux vins bus, qu'il soit distingué ou bien des rues. Tout cela est maintenant classé au rayon des souvenirs dans de grands cahiers étiquetés des classeurs des cartons qu'un enfant ouvrira peut-être un jour, à moins que toute cette existence ne finisse dans une poubelle dont le contenu sera récupéré par un diable qui l'étalera sur le carreau et s'en débarrassera contre quelques pièces qu'il se dépêchera de boire à la santé de Bob. Il plonge la main dans sa poche, égrène la mitraille qui coule entre ses doigts, paie, s'apprête à sortir. Au moment de saisir le bec de canne, il se retourne une dernière fois vers Olivier, le patron des quatre sergents de La Rochelle. « Salut, Bob !» lui lance Olivier. « Salut, Olivier !» lui répond Robert. Robert Giraud, que de Bussy à Mouffetard, des Halles à la Maube, on n'a jamais appelé que par son blaze « Bob, Monsieur Bob !»
Petites et grandes histoires de la basse marche.
Tous les samedis soirs, on allait comme ça, dans un bal-musette pour danser comme ça, dans un vieux quartier fréquenté comme ça, par des danseurs de Java comme ça. Rue de la Peux, au temps joyeux, où les frappes étaient chez eux.
Merci de nous avoir suivis pour cette nouvelle chronique des petites et grandes histoires de la basse marche, consacrée aujourd'hui à Robert Giraud, le poète de Nantia. Pour les textes, nous avons fait appel à Georges-Emmanuel Clancier, Roger Kennett et Olivier Bailly. Pour les accompagnements musicaux, nous avons fait appel au groupe Maluzerne, à Henri Crolla, aux chanteurs et chanteuses Fréhel, Anna Marly, Paul Perry, Gérard Pierron, Monique Morelli, Tonio Genem et Mouloudji, qui nous interprète en ce moment Rue de Lappe. Je vous rappelle que la réalisation technique de cette émission est assurée par Philippe Quiquempoix et Gérard Schillinger. Je vous donne rendez-vous le week-end prochain pour une nouvelle chronique des petites et grandes histoires de la basse marche. Ce sera une rediffusion, la rediffusion d'une émission intitulée « Images de l'automne en basse marche ». À très bientôt donc, et très bonne semaine à vous tous.
Rue de la Peux, on rencontrait une frappe qui revenait. Rue de la Peux, pour respirer un peu d'air frais de ce bon vieux quartier.